Nathalie, à travers ce film, le discours d'un roi que vous avez beaucoup aimé.
Oui, que j'ai beaucoup aimé et que je recommande parce que c'est vraiment un film qui donne la pêche et qui donne envie de lutter contre les handicaps.
Alors là, c'est l'histoire d'un roi bègue.
Alors, c'est l'histoire réelle hein, du roi d'Angleterre, George VI, qui était très, très handicapé par un bégaiement vraiment terrible. Et donc le film raconte le parcours de ce roi, de cette personne pour vaincre cet handicap, ce bégaiement, mais aussi pour dépasser sa peur d'accéder au trône, parce que à cause de ce bégaiement, il est tout à fait inquiet, et plus qu'inquiet, angoissé, il se pose plein de questions sur sa propre valeur.
Oui, a priori, effectivement, un roi d'Angleterre, c'est un personnage public qui prend la parole.
Oui, et d'autant plus
le discours du trône, il faut le faire quand même,
voilà,
hein, chaque année.
Et puis d'autant plus qu'à cette époque, le premier discours auquel on va assister, c'est 1925. Celui qui finit le film est 1939, c'est le passage à la communication radiophonique. Donc, un roi qui n'a pas d'autre pouvoir vraiment effectif que d'être la voix du peuple, et d'autant plus que ça va être pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il va devoir soutenir le moral de non seulement des troupes mais de son peuple. Il faut qu'il puisse parler.
Et c'est le plus grand empire du monde, hein, ce qui est dit dans le film,
oui,
à l'époque.
Tout à fait.
Donc vous avez vu.
Oui, oui. Donc c'est vraiment relayé sur toute la planète ce discours.
Donc vraiment l'enjeu est d'importance.
Et alors que fait-il pour dépasser justement cette peur?
Alors je vais vous le dire, mais je voudrais aussi préciser que c'est avant tout le parcours aussi d'une amitié. Et c'est pas seulement un film historique, c'est pas simplement un film de reconstitution, mais c'est vraiment un film de rencontre et d'amitié entre ce personnage qui est donc le roi George VI et son orthophoniste Lionel Lodge, qui a été vraiment existé et qui incarne aussi pour ce personnage royal l'homme du peuple, l'homme auquel il n'a jamais été confronté, un personnage original qui va lui faire découvrir non seulement dépasser son handicap, mais aussi découvrir l'amitié, chose qu'il ne connaît pas dans ce milieu-là.
Et qui n'est pas diplômé en orthophonie.
Absolument. En plus, il n'est pas reconnu par l'archevêque de Canterbury.
Et qui est raté, en fait.
Voilà. Qui est un nom qui n'est pas raté parce qu'il a de l'expérience.
Oui, mais c'est un comédien raté, il n'arrive pas à passer les castings, et puis, mais il a une expérience humaine très très forte.
Oui, il a aidé pendant, en Australie, nombre de soldats à sortir de traumatismes extrêmement graves dus aux explosions de la Première Guerre mondiale, donc il a cette expérience-là.
Donc un film historique, une grande trame, un film touchant aux questions importantes de l'amitié. Mais comment le réalisateur s'y est-il pris?
Alors, c'est un film qui est, comme le titre l'indique...
Parce que ça pourrait être très didactique et très...
Non, c'est un film qui joue sur plusieurs tonalités. D'abord, c'est un film drôle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas rire du bégaiement. Au contraire, la partie bégaiement, c'est qui est vraiment tragique et qui est d'une émotion extrême. Alors, il fait rire par la mise en scène. Il emploie, par exemple, beaucoup de grands angles, c'est-à-dire cet objectif, cette focale qui distord les proportions, qui amplifie les avant-plans. Donc, par exemple, le premier plan, c'est un plan micro, hein, puisque c'est l'épreuve ultime, c'est de parler devant un micro, hein. Il n'est pas le seul d'ailleurs, ce n'est jamais facile. C'est les gros plans de bouche, les gros plans de papier, de notes, tout ça prend des proportions assez gigantesques. Et il joue beaucoup sur les perspectives qui donnent une sensation de l'espace assez vertigineuse quand il monte les escaliers, quand il marche vers ce micro vers lequel il se dirige régulièrement.
En fait, c'est ce qu'il ressent.
Voilà. Donc, et puis, il y a des passages extrêmement drôles qui sont tous les exercices physiques pour essayer d'améliorer la voix, toutes les injures qu'il met entre les mots pour arriver à sortir, à dépasser, à retrouver son souffle. Donc il y a des scènes absolument drôles, franchement agréables. Et donc ça, c'est la partie légère du film. Donc on peut dire que c'est une comédie. Mais c'est une comédie qui joue absolument sur l'émotion avant tout. Et par là, et il trouve pour ça une forme qui est assez subtile, qui est la figure du champ contre champ. C'est un film, donc, comme je vous le disais, qui est structuré par rapport au discours. Ce premier discours catastrophique, alors je vais quand même vous dire de quand ça date, c'était le discours de clôture de l'exposition universelle à Wembley en octobre 1925, et qui se termine par le discours de déclaration de guerre le 3 septembre 1939. Et entre-temps, il rencontre, il cherche un orthophoniste, il rencontre ce personnage Lionel Lodge, et il va le rencontrer 7 fois au cours du film, 7 séances qui ne sont pas que des séances à l'intérieur chez Lodge qui le reçoit, mais 7 confrontations. Et donc c'est un entretien face à face, assis l'un face de l'autre, ce qui correspond à la figure du champ contre champ. Alors je vais expliquer en 2 mots en quoi ça consiste. C'est filmer un plan sur un personnage, donc on va dire le roi, son petit nom c'est Bertie dans le film, et l'autre plan c'est sur l'orthophoniste, Lionel, voilà. Alors il y a
donc Bertie, Lionel.
Lionel,
Bertie,
voilà. Et on découpe, c'est-à-dire on passe de l'un à l'autre régulièrement en suivant les dialogues et on joue sur le rythme des dialogues, etc. Sauf que c'est une figure assez statique. Le réalisateur a 2 idées. Tom Hooper, il utilise le format, d'abord, qui est en scope, c'est très très large, très allongé. Hein, maintenant, on dit le 16/9 pour nos postes de télévision plat. Et donc, un espace très large, qui d'habitude est utilisé plutôt pour les westerns, quand il y a des grands paysages, comme ça. Or là, ce sont des lieux
huis clos, oui,
intimistes. Et donc, il place le personnage dans chacun des cadres, soit à gauche, soit à droite du cadre. Et normalement, quand c'est bien fait, les personnages se regardent. Ici, c'est bien fait, ils se regardent. Mais traditionnellement, le personnage qui est dans le cadre est adossé à la partie verticale du cadre. Alors, à la radio, c'est pas facile à expliquer. Mais il est adossé et il regarde en direction de l'autre, le regard tourné vers l'intérieur du cadre. Et même chose de l'autre côté.
Pour demander aux spectateurs de suivre le regard. Oui, bien
voilà. Et donc, les deux personnages sont habituellement adossés à chaque bordure verticale. Et là, curieusement, ils retournent, les regards ne traversent pas le cadre, mais ils regardent, ils sont plutôt tournés du côté de la bordure verticale. Ce qui fait que on a une drôle de sensation, une espèce de gêne. Hein. La première séquence, elle est complètement construite comme ça. Et on a l'impression que le roi a le nez contre un peu le bord du cadre, et Lionel aussi. Et par contre, on a toute la latitude pour regarder ce qu'il y a autour. Hein. Du coup, on accorde une attention extrême à la partie centrale de l'image, et qui représente quoi ? Elle, derrière le roi, c'est un mur absolument lépreux, verdâtre, grisâtre, brun. Et moi, ça m'a frappé parce que je me disais, mais pourquoi autant d'espace consacré à ce mur, presque en décomposition, en friche ? Donc ce mur prend, alors c'est très beau aussi esthétiquement, mais ça a une dimension pratiquement symbolique de vide. Voilà, de vide. Et du côté de Lionel, de l'orthophoniste, par contre, on voit la maison, la cheminée, une perspective de la pièce. Et là, c'est tout à fait chaud, chaleureux, établi, assis. Et dans les interviews du réalisateur, j'ai trouvé ces paroles que je vais vous lire. Il dit, Tom Hooper, il dit « Comment représenter le bégayement à l'écran ?» Comme le bégayement se définit surtout par une sorte d'exil, de silence et de solitude intérieure, j'ai pensé qu'il faudrait cadrer le visage de Colin Firth, qui est le comédien qui incarne le roi, une prestation extraordinaire, et derrière lui, filmer de grands murs gris et vides avec rien dessus. C'est ma façon à moi de suggérer l'isolement intérieur qu'entraîne ce terrible handicap. À l'inverse, l'orthophoniste incarné par George Rush est tout le temps montré à l'intérieur d'un espace chaleureux, empli de livres, de jouets, montrant l'âtre de la cheminée, entouré d'objets domestiques qui le relient à la douceur du foyer. Donc ça, c'est vraiment intéressant, hein, parce qu'on a cette sensation d'espace, l'importance du décor, et ça va évoluer au cours du film. Le roi va se détacher après devant un papier peint ou d'autres intérieurs. Et surtout, par rapport à cette direction de regard C'est pas totalement systématique non plus, mais moi qui m'a vraiment frappée, il y a une scène clé, charnière dans le film, qui est la répétition du couronnement. Mmh. Où l'orthophoniste est mis en danger par l'archevêque de Canterbury, qui justement, parce qu'il n'a pas de diplôme, veut le remplacer par quelqu'un de sérieux. Et là, le roi accuse,
il doute,
et il accuse Lionel de l'exploiter. Mmh. Et il plonge dans vraiment un désespoir profond en se voyant déjà comme George le bègue, comme il y a eu en Angleterre George le fou. Il dit, je vais être George le bègue. Et quand il se retourne vers Lionel, à ce moment-là, on découvre Lionel assis dans le trône historique.
Vautré sur le trône.
Oui, ouais, vraiment, c'est vraiment une scène à la Shakespeare. Ouais. Hein. Et il est assis là ça met le roi hors de lui. Il dit, mais vous ne pouvez pas vous asseoir dans cette chaise historique de Saint-Edward. Vraiment. Et il s'énerve. Et là, Lionel le nargue en disant, mais c'est juste une vieille chaise en bois. Et là, justement au niveau des regards, pour revenir au champ contre champ, Lionel lui reste toujours plutôt tourné vers la bordure du cadre. Et là, le roi lui reprend la position habituelle, donc son regard traverse le cadre. Et là, il sort de ses gonds et il crie, il dit, je suis le roi, je suis votre roi, je suis une voix. Et sans bégayer.
Voilà.
Et à ce moment charnière du film, il reprend, le regard reprend tout son espace.
Et c'est là où tout
bascule. Et ça bascule. Mmh. Et après, il est aussi souvent, très souvent, au centre du cadre, face à la caméra. Et il prend vraiment sa place, sa dimension de roi. Et pour ça, c'est vraiment intéressant.
Mais quelle belle leçon du cinéma.